8h44 minutes en ce mardi matin sous le soleil. On jase en ce moment avec le chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans Arthabasca, Éric Duhaime, qui est au bout du fil. Monsieur Duhaime, bon mardi matin.
Bonjour.
Merci d'être là, toujours un plaisir.
Bien, c'est un plaisir partagé.
Monsieur Duhaime, vous êtes pratiquement, il faut le dire, 7 jours sur 7 dans Arthabasca. Comment se déroule la campagne sur le terrain?
Bien, ça va très bien. Écoutez, on va à la rencontre des électeurs. Hein. On ne sait pas encore la date des élections, mais quand même, la campagne est pleinement partie. Les gens affichent sur leur terrain déjà avec les pancartes du M du vrai. Les bénévoles viennent. On avait près d'une centaine de personnes là, qui sont venues faire du porte-à-porte en fin de semaine. Comme si on était en plein milieu d'une campagne électorale dont on ne connaît pas encore la date, mais l'enjeu est assez clair. Là. Pour nous autres, il y en a trois. Là. Il y a la taxe sur l'essence. Les gens me parlent beaucoup, beaucoup de la taxe carbone, puis comment c'est important de l'abolir, puis comment ça coûte trop cher. Là. Dans une région comme Arthabasca, qui est quand même assez rurale, le coût de l'essence, ça frappe dur les familles. Ensuite de ça, il y a l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. On parle beaucoup de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, mais il y a des hôpitaux en région qui sont dans un piteux état et qui ont besoin d'investissement. Et finalement, les agriculteurs, là, c'est une circonscription très agricole et il y a beaucoup d'agriculteurs là, qui sont écœurés de la paperasse, de la bureaucratie, des bâtons dans les roues, des écofrais. Nos agriculteurs, si on veut qu'ils restent compétitifs avec le reste du monde, il va falloir leur donner un peu d'oxygène.
La semaine dernière, grande conférence de presse avec Denis Coderre. Oui. Pourquoi Éric Duhaime s'associe à un personnage aussi polarisant que Denis Coderre?
Mais d'abord, c'est pas nouveau que Denis Coderre l'avait dit quand il était candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Il avait dit que lui considérait que c'était important que 530 000 Québécois soient représentés à l'Assemblée nationale, qu'il y avait une distorsion démocratique la plus importante de l'histoire du Québec et que ça devait être corrigé, puis que c'était pas une question de partisanerie. Il fallait laisser la partisanerie de côté. Il fallait s'élever comme démocrate pour éliminer le cynisme en politique. Et j'en avais pris bonne note. Et donc, dans les dernières semaines, je l'ai recontacté, j'ai demandé s'il pensait encore la même chose, puis j'ai demandé de venir le dire dans Arthabasca, ce qu'il a fait la semaine passée, et je pense que ça a eu un bon effet, parce que veux pas Denis Coderre, les gens qui aiment Denis Coderre, c'est pas nécessairement les mêmes gens qui aiment Éric Duhaime. On est allé, par exemple, dans une résidence personnes âgées tout de suite après la conférence de presse, puis on a pu voir que le personnage de Denis Coderre était très, très, très populaire. Et je pense que ça peut juste aider là, les gens qui veulent que 530 000 Québécois soient représentés à l'Assemblée nationale de nous faire gagner dans Arthabasca.
Je suis d'accord avec le 530 000 Québécois, mais il me semble que Denis Coderre, il n'est pas aimé de plusieurs millions de Québécois. C'est moi qui ai la berlue.
Bien, d'abord, c'est notre base est quand même assez solide. Là. Je m'adressais pas aux conservateurs déjà convaincus. Là. On s'adressait vraiment à un segment de la population qui est plus âgé, évidemment. Et de montrer qu'on est capable de mettre la partisanerie de côté. T'sais, qui symbolise mieux le Parti libéral au Québec que Denis Coderre? Il n'y en a pas beaucoup. Là. Regardez les 5 personnes qui se présentent à la chefferie du Parti libéral actuellement, puis il n'y en a aucun. Même les 5 ensemble, si on additionne leur taux de notoriété, il n'y en a pas un qui arrive à la cheville de Denis Coderre.
Ah ouais, même donc, pas Pablo Rodriguez?
Je pense pas. Écoutez, là, promenez-vous dans les régions, puis demandez dans Arthabasca, allez à Saint-Pierre-Baptiste, puis aller demander aux gens s'ils savent c'est qui Pablo Rodriguez, s'ils savent c'est qui Denis Coderre, puis vous allez être surpris.
Hier, je vous ai senti jubilé quand l'ex-candidate de Québec solidaire, Nadia Poirier, a dit que c'était rendu une péquiste. Pour vous, c'est un non-sens total?
Bien, c'est surtout les explications qu'elle donne pour passer de Québec solidaire au Parti québécois. Elle souligne que c'est la même chose que pratiquement, c'est que le Québec solidaire puis le Parti québécois ont beaucoup de choses en commun. C'est quelque chose qu'on dit depuis des mois, des années. Effectivement, ces deux partis-là, ça devient de plus en plus difficile de les différencier. Et c'est pour ça que de voir une candidate qui passe d'un à l'autre là, sans qu'elle voit vraiment une différence, ça témoigne de quelque chose. Tu sais, je pense que le Parti québécois est devenu une espèce de Québec solidaire bleu. Et ça se confirme là, avec des gens comme elle qui adhèrent à Québec solidaire. C'est des vases communicants. Et c'est un parti qui s'est mis beaucoup plus à gauche dans le Parti québécois, puis on le sait dans la région de Québec, là, vous le voyez, là, regardez ce matin, il y a un sondage dans Le Soleil qui nous apprend que 70% des gens de la région de Québec sont pour un troisième lien. Ben, êtes-vous surpris que Québec solidaire puis le Parti québécois sont contre? Ben non, c'est des activistes de gauche là, du centre-ville, et c'est sûr que on parle de la même clientèle. Puis tu sais, présentement, là, dans la région de Québec, s'il y avait une élection, le Parti québécois finirait premier dans les intentions de vote selon les derniers sondages. Bien, nous, notre job, là, c'est d'informer le monde à Québec que le Parti québécois est pour un troisième lien que les gens de Québec ne veulent pas. La même affaire que Québec solidaire, puis sur le troisième lien, ils sont comme Québec solidaire, sont contre un troisième lien que 70 % de la population veut. Et je pense qu'à force de marteler ça, que les gens réalisent où le Parti québécois loge sur l'axe gauche-droite, bien, je pense que ces gens-là vont s'en venir au Parti conservateur du Québec.
Mais pourquoi quand Luce Danneau, qui s'est présenté deux fois pour Québec solidaire, a rejoint le Parti conservateur, ça, c'était correct?
Bien, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a répondu hier à Pascal Bérubé, là, le Parti québécois qui nous attaquait là-dessus. Ce qu'elle a dit, c'est « Moi, regarde, je suis une fille qui est issue du communautaire, que le Québec solidaire me parlait beaucoup, mais quand j'ai réalisé que vous étiez contre les voitures, ça marchait pas, quand j'ai réalisé que c'est bien beau de vouloir distribuer de l'argent puis aider les pauvres, mais qu'on refuse de créer des richesses, par exemple, en exploitant de façon responsable notre gaz naturel au Québec, ça ne fonctionne pas. Qu'elle voulait offrir des services de santé gratuits à tout le monde, mais quand elle voit qu'on est contre le Québec solidaire et le Parti québécois sont avec la CSN, sont contre la concurrence pour améliorer les soins de santé gratuits à la population, ça ne fonctionne pas. Elle avait des idéaux qui sont partagés par Québec solidaire, mais les moyens de l'atteindre ne fonctionnaient plus. Elle a décidé de quitter la formation politique. Elle a jamais dit que les idées de Québec solidaire, c'était la même idée que le Parti conservateur du Québec. Au contraire, elle était en rupture avec les idées de Québec solidaire. C'est ça qui est la différence entre les gens qui adhèrent au Parti conservateur et les gens qui s'en vont au Parti québécois.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, on part sur une rafale de questions d'actualité à réponse concise. Ça vous va?
Oui.
Première question, dossier, ça clique. Comment vous évaluez le travail de la commission Galant actuellement?
Bien, je pense qu'il faut attendre de voir le rapport qui va être produit seulement au mois de septembre. Mais présentement, c'est sûr qu'à tous les jours, on a des révélations chocs. Puis on en apprend un peu tous les jours. Ça, je pense qu'au niveau de l'information, on est très content. Maintenant, au niveau des recommandations, on va attendre qu'elles soient publiées avant de les commenter.
Est-ce que les ministres étaient au courant et sont responsables de ce fiasco? Je pense notamment à Éric Kerr, Geneviève Guilbeault et François Bonnardel.
Bien, c'est soit qu'ils étaient incompétents ou soit qu'ils sont menteurs. Soit qu'ils n'ont pas rempli leurs fonctions ou soit qu'ils nous mentent et ils savaient. Donc, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'ils sont imputables et qu'ils devront prendre la responsabilité du fiasco.
Avec tout ce qu'on apprend par rapport à ce fiasco-là, est-ce que Carl Malenfant est le seul coupable?
Absolument pas. On peut pas monter une chose comme ça. Je veux dire, il y a une raison pourquoi Carl Malenfant n'est pas ministre, il n'est pas imputable puis il n'est pas redevable à la population. Là. Il y avait des supérieurs, ce gars-là. Et ultimement, dans un ministère, la personne qui est imputable qui est responsable de tout, c'est le ministre. Parce que c'est lui qui peut tirer la plug à tout moment quand il voit que les choses ne fonctionnent pas. Donc, lui, il était un exécutant et ceux et celles qui ont décidé au-dessus de lui sont responsables.
Cette semaine, tout pointe vers l'adoption de la loi sur l'énergie par le baillon. Comment vous trouvez justement ce comportement de la CAQ?
Bien, c'est toujours déplorable qu'on empêche là, d'avoir des débats démocratiques. Surtout que c'est un sujet très important, là, l'énergie au Québec. C'est peut-être un des sujets les plus importants. C'est un des sujets où la CAQ a le plus échoué depuis son arrivée au pouvoir. C'est décevant, très décevant, mais malheureusement, la façon dont il a traité la démocratie depuis 6 ans, c'est peut-être pas surprenant.
Est-ce que, M. Duhaime, le fameux pipeline doit passer par le Québec et est-ce que François Legault va dire oui?
Je l'espère. C'est évident qu'au Canada, on a besoin d'avoir une autonomie énergétique. Surtout, on vient de voir que les Américains, là, oublier Donald Trump, c'est pas une bonne idée d'être 100% dépendant du marché américain, d'être obligé de passer par les États-Unis pour notre gaz puis notre pétrole, d'avoir une autonomie énergétique au Canada, c'est stratégique, c'est sécuritaire, et j'ose espérer que M. Legault va arrêter de faire du marchandage de bas étage. C'est une question de sécurité, d'économie, puis d'autonomie.
Avec les grèves qui se multiplient partout au Québec, pour ou contre, Éric Duhaime, le projet de loi 89 du ministre du Travail, Jean Boulet?
Bien, dès le départ, j'ai salué ce projet de loi-là, puis je continue à penser que c'est un pas dans la bonne direction. Malheureusement, ça ne va pas suffisamment loin. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Vous savez, au Québec, il y a un déséquilibre dans les lois du travail en faveur des syndicats, contre les travailleurs, puis contre la liberté de choix. Et j'ose espérer que ce n'est que le premier pas, puis que le gouvernement va aller beaucoup plus loin dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Dans le face-à-face, M. Duhaime, entre les médecins et le ministre Dubé, qui a raison?
Les deux ont tort. Le problème, puis on a une petite tarte qu'on essaie toujours de subdiviser en plus petits morceaux. La solution en santé, c'est pas compliqué, c'est de donner plus de liberté de choix aux patients, puis d'avoir de la concurrence en matière de santé avec un partenariat, l'addition du privé. Et pour nous, c'est ça la solution. Comme tous les bons systèmes, les meilleurs dans le monde, par exemple, les modèles scandinaves là, en Suède, au Danemark, même en France et en Allemagne, les meilleurs systèmes de santé, c'est des systèmes où il y a un secteur public et un secteur privé qui se font concurrence. Puis au Québec, malheureusement, les deux actuellement qui se chicanent, c'est en fonction d'un monopole public.
En terminant, Éric Duhaime, votre note que vous accordez à la CAQ pour la dernière session parlementaire.
Écoutez, je dis 4, là, puis je pense que je suis généreux. Ça a été une session extraordinairement décevante. On rit, mais c'est pas drôle. Le Québec a été décoté. C'est pas une farce. Là. On va payer 500 millions d'intérêts de plus sur la dette du Québec juste parce que notre gouvernement est incompétent. Il nous a présenté un déficit de 13,6 milliards de dollars. Il y a eu le scandale du fiasco de la SAAC, où on en a parlé à 1,1 milliard. Il y a eu le fiasco de Nordvolt, 720 millions. Le fiasco de Lyon Électrique, 450 millions. Puis ils viennent d'annoncer qu'ils vont remettre un autre 500 millions pour des autobus électriques qui fonctionnent pas avec une compagnie en faillite. C'est vraiment un gouvernement décevant. Je m'acharnerai pas sur eux. Je pense que les Québécois ont déjà fait un jugement à propos de ce gouvernement.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, candidat dans Arthabasca. Monsieur Duhaime, merci pour votre temps. Toujours un plaisir.
C'est un plaisir partagé. Bonne journée tout le monde. Bye.
À vous aussi. Au revoir. Éric Duhaime, qui est la grande majorité de son temps là, en ce moment, de ce temps-ci, dans Arthabasca, justement, sur le terrain, à jaser avec les citoyens là-bas.
Pour une élection partielle dont on ne connaît pas encore la date.
C'est
carrément fou ce qui se passe là, Arthabasca. Comment cette élection partielle-là a une importance capitale, comme on a vu dans Jean Talon en octobre 2023, parce que ça pourrait être l'entrée à l'Assemblée nationale d'Éric Duhaime ou la poursuite pour le PQ, justement, de leur montée vers possiblement un prochain gouvernement. Alors, ça sera une élection partielle très importante. Sais-tu quoi? J'ai aimé ça, petite question à rafale.
Cool,
on va recevoir pas mal tous les partis politiques cette semaine, début de la semaine prochaine. On pourrait préparer ça pour les autres également.
Ben, on est aussi bien. On fait des petites jazzettes. On a nos questions pour commencer la discussion. Mais j'aime aussi, après ça, partir avec les sujets chauds d'actualité dans le monde politique. Je trouve ça bien, bien cool. Ouais. C'est le fun de voir, définitivement. Puis tu sais, encore, vous le savez, là, nous, à Rage Against the matin, là, tu sais, pas de couleur, pas un parti pris comme tel. Éric Duhaime connaît les dossiers. Sur le côté rafale, il y avait des bonnes réponses pour chacune de ces questions-là, ou en grande majorité, là, côté rafale, actualité politique. Là.
Bien répondu aussi sur la différence entre l'adhésion de Mme Poirier au PQ et l'adhésion de Mme Dussault-Dufault.
Je ne l'ai plus devant moi.
Du côté du Parti conservateur, sa réponse était très précise, honnêtement.
Luce Danneau.
Danneau. Donc, et voilà. Donc, réponse très précise et explication très véridique.
Ouais. Corias en musique avec Printemps, Rage Against le matin.